Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Vous vous souvenez du monde d'avant, il était question de la transition énergétique qui devait être le cœur de l'acte 2 du quinquennat. Alors ça, c'était avant. Que reste-t-il aujourd'hui de cela? Le grand soir est-il arrivé pour l'écologie? Pour en parler, nous sommes en compagnie de Jean-Marc Jancovici. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur consultant en énergie climat, enseignant à Mines, Paris Tech et président du think tank The Shift Project. Jean-Marc Jancovici, qu'est-ce que cette crise change à la question de la transition énergétique?
Alors en fait, il y a une transition énergétique cachée derrière cette crise dont on ne se rend pas compte, qui concerne le pétrole. Avant la crise du Covid, il s'est passé quelque chose il y a un an et demi qui est passé un peu sous le radar de la presse française. Qui est que la production de pétrole dans le monde s'est arrêtée de croître. Elle avait déjà commencé à faire ça en 2005, sur la période 2005-2008, on a vu le résultat économiquement. Là, elle a recommencé à faire ça et on avait déjà commencé à voir le commerce mondial diminuer, on avait commencé à voir la production industrielle des pays de l'OCDE diminuer, etc. Et le Covid n'a fait qu'accélérer cette chose-là. Ce qui se passe en ce moment dans le domaine du pétrole, c'est que la crise économique qui est survenue pour cause de confinement a fait plonger les prix du pétrole vers le bas. Du coup, les investissements qui sont décidés cette année dans l'amont pétrolier ont été divisés par 4 pour le moment, voire plus par rapport à ce qui a été décidé l'année dernière, ce qui est une très bonne nouvelle pour le climat, mais ça veut dire que l'offre de pétrole va baisser, et il se trouve que quand tout va bien, entre guillemets, c'est-à-dire quand il n'y a pas de Covid pour nous confiner, la quantité de pétrole disponible sur Terre, c'est le premier facteur limitant de l'économie mondiale. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que la transition énergétique qui va se faire sans qu'on s'en rende compte, c'est que l'après ne pourra pas revenir au niveau de l'avant, parce qu'il n'y aura pas assez de pétrole. Donc, une partie du tourisme ne pourra pas revenir, quoi qu'on fasse. Une partie des déplacements ne pourra pas revenir, quoi qu'on fasse. Et une partie de l'économie ne pourra pas revenir, quoi qu'on fasse. Ça, c'est une transition énergétique qu'on va devoir gérer, même si on ne l'a pas souhaité. Que les gens qui s'intéressent à la question des hydrocarbures, qui sont aussi en France, le premier fournisseur d'énergie pour machine, de nourriture pour machine, c'est-à-dire de l'énergie. C'est ça la vraie transition en fait qu'on va devoir gérer. La transition que tout le monde a en tête, qui est-ce qu'on va planter assez d'éoliennes et de panneaux solaires pour remplacer du nucléaire, est une transition gadget, j'ai envie de dire, qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour faire face aux grands défis de l'avenir. Alors celle-là, elle va très bien, merci bien, parce que dans les premières mesures qui ont été décidées par le gouvernement, enfin, elle va très bien à double titre. D'abord parce que dans les premières mesures qui ont été décidées par le gouvernement, il y a, rassurez-vous, on va continuer à faire ce genre de choses, qui n'a en fait pas beaucoup d'intérêt chez nous et qui affaiblit l'économie parce que ça augmente les importations. Mais dans les autres domaines, je ne pense pas qu'on va faire grand-chose de sérieux. Et du reste, les secteurs qui vendent, enfin, qui fabriquent plus exactement des engins qui ont besoin de pétrole ou qui utilisent du pétrole, donc le secteur aérien ou le secteur de la construction automobile, font partie des premiers secteurs qui ont reçu des aides très significatives. Et je n'ai pas entendu à ce moment qui que ce soit au gouvernement expliquer que ces secteurs-là, de toute façon, il allait falloir en faire un peu moins, de moins en moins, pour cause de diminution des émissions de gaz à effet de serre. J'ai pas vraiment entendu ça. Et au niveau européen, c'est pas beaucoup mieux. Donc, pour le moment, la transition énergétique, elle est là. Celle qui n'a pas d'intérêt est préservée. Celle qui a de l'intérêt n'est pas spécialement développée à la faveur de ce qu'on doit faire.
Mais alors, justement, comment vous expliquez cette tendance passée, dites-vous, Jean-Marc Jancovici, sous le radar? Il a été question également des gaz de schiste, puisque leur coût de revient est aujourd'hui passé très nettement au-dessus du prix de vente des hydrocarbures. Comment expliquez-vous cela?
Comment j'explique quoi?
Que le fait, non, quand vous disiez qu'il y avait un phénomène qui était passé sous le radar.
Ça, il faut demander à vos confrères, j'en sais rien, moi.
Non, mais le fait.
C'est pas moi qui fais l'information.
Bien entendu, Jean-Marc, au sujet donc de cette baisse de la production, puisqu'il y a de nombreux gisements qui ont été trouvés avec le gaz de schiste et les États-Unis s'enorgueillissaient d'être aujourd'hui indépendants des importations en matière d'hydrocarbures.
Alors moi, je ne vous parle pas du gaz, je vous parle du pétrole. Parce que le gaz et le pétrole n'ont pas du tout les mêmes applications dans le monde, et en particulier, les transports sont totalement dépendants du pétrole. 98% de l'énergie utilisée dans les transports, c'est du pétrole. Vous avez des camions à gaz, des voitures à gaz et des trains à gaz, c'est quand même pas très courant, et des bateaux à gaz non plus. Tout ça fonctionne au pétrole. Ce qui s'est passé aux États-Unis, en fait, le point intéressant pour ce que je suis en train d'évoquer, c'est le pétrole de schiste aux États-Unis et non pas le gaz. En fait, le pétrole de schiste, c'est ce qui a permis à l'économie mondiale de repartir de l'avant après la crise de 2008, qui elle-même est une conséquence du pic et du déclin de ce qu'on appelle le pétrole conventionnel. Donc là, il y a un document de l'Agence internationale de l'énergie qui a été publié en décembre 2018, qui a rappelé quelque chose que les connaisseurs du secteur savaient, qui est que le pétrole dit conventionnel, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas pétrole de schiste et sable bitumineux au Canada, est passé par un pic en 2008 et depuis décline. Et en fait, c'est l'arrivée de ce pic qui a directement causé ce qu'on a appelé la crise financière des subprimes. Ça, c'est un processus qui est très peu documenté dans la presse française, parce que la presse française, quand on lui parle d'énergie, s'intéresse essentiellement à l'électricité. Et donc la question qui est pourquoi c'est passé sous le radar, ma réponse c'est j'en sais rien. C'est pas faute d'avoir essayé d'en parler, mais c'est un sujet qui intéresse peu la presse, pour des raisons qu'il faudrait creuser plus avant.
Et le fait que, vous dites, la presse s'intéresse beaucoup à l'électricité, le fait qu'on ait d'une part beaucoup évoqué la voiture électrique pour l'après-Covid, si vous croyez en l'existence d'un après-Covid, Jean-Marc Jancovici.
Alors, il y a de toute façon un après-Covid. Je ne pense pas que l'humanité va mourir demain matin. Par contre, cet après-Covid, il va être fait... Ça va être un monde qui va être très différent du monde d'avant pour une raison, c'est qu'on était de toute façon en Europe... On avait déjà commencé à rentrer dans quelque chose qui était en tendance, une contraction structurelle de l'économie physique. Donc je ne parle pas de l'économie monétaire, parce que vous pouvez très bien avoir des effets de croissance qui sont de la fausse croissance, notamment quand les objets se mettent à valoir de plus en plus cher. Si vous avez l'immobilier, ce qu'on appelle les actifs, si l'immobilier se met à valoir de plus en plus cher, les actions se mettent à valoir de plus en plus cher, etc., ça vous crée artificiellement de la croissance, pour tout un tas de raisons qui sont des raisons techniques dans le calcul du PIB, mais ça vous fait pas pour autant plus de mètres carrés, plus de voitures. Et si vous regardez, je le redis, la production industrielle l'économie physique, ou les mètres carrés disponibles, il se trouve que depuis 2008, il n'y avait plus de croissance en Europe. Et là, ce qui va se passer, c'est que nous allons entrer dans une ère nouvelle qui est une contraction structurelle de l'économie. Alors évidemment, ce n'est pas du tout ce que vous racontent les économistes, mais je rappelle que dans les modèles économiques, la croissance est une hypothèse, c'est un postulat de départ, ça n'est jamais une démonstration du modèle. Ce n'est pas une sortie, c'est une entrée. Donc nous allons devoir raisonner en contraction. Donc dans un monde dans lequel il n'y aura pas de plus en plus de moyens pour gérer de plus en plus de problèmes, mais de moins en moins de moyens pour gérer de plus en plus de problèmes. C'est ça le monde vers lequel on se dirige. Et c'est évidemment ça qui est le fait marquant pour moi de ce qui va se passer dans les décennies qui viennent.
Alors comment est-il possible de résoudre dans ce cas-là cette contrainte forte? Si vous dites que le monde se contracte, comment profiter de cette contraction pour opérer une transition énergétique?
Eh ben, on va opérer graduellement une transition de force, parce qu'on n'a pas voulu ou pas essayé de faire celle de gré. Le fait que la fête aurait une fin, c'est quelque chose qui est documenté depuis longtemps. Il y a eu au début des années 70 un travail d'universitaire du MIT aux États-Unis qui a conduit à une version vulgarisée qui s'appelait « Les limites à la croissance » et qu'un certain nombre de gens d'un certain âge on gardait dans la tête sous le nom du rapport du Club de Rome. Et ce travail disait que la recherche de la croissance perpétuelle ne pouvait amener qu'un effondrement du système sur lui-même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, vous avez la contraction de toute façon, parce qu'il n'y a plus assez pour faire en sorte que le système aille en croissant. Eh bien, à ce moment, la transition énergétique, c'est une diminution de la consommation subie. C'est ça la transition qu'on va avoir. Donc, de toute façon, les gens feront moins de kilomètres, consommeront moins de choses, tout simplement parce qu'on l'aura subi. Alors, en France, comme dans beaucoup de pays européens, c'est pas du tout comme ça qu'on voit la transition. On voit la transition comme étant dans un univers en croissance. Du reste, on n'arrête pas de parler de croissance verte. On a une loi en France qui a voté la croissance verte. Donc, moi, je pense qu'on aurait pu aussi voter le retour de Harry Potter. Ça avait à peu près le même effet.
D'accord.
Oui, mais vous savez, le monde politique a l'habitude de confondre ses désirs et nous aussi parfois, et les réalités. En Europe, on voit la transition énergétique comme technologique dans un univers en croissance. Donc, on va faire des voitures électriques, de l'hydrogène,
exactement,
des éoliennes, des panneaux solaires, des machins, des trucs et des bidules. Tout ça dans un univers en croissance et tout ira très bien. En fait, la transition énergétique, ça va être devoir se passer de pétrole, de charbon et de gaz, ce qui est déjà en cours en plus en Europe, parce que notre charbon, ça fait deux siècles qu'on tape dedans et la production de charbon en Europe est en déclin depuis des dizaines d'années. Le gaz vient essentiellement de la mer du Nord, qui est en déclin depuis 2005. Et enfin, le pétrole vient essentiellement d'importations. Et ces importations sont déjà orientées à la baisse en tendance. Et dans les années qui viennent, cette baisse va s'accélérer parce qu'il y a notamment la Russie qui fournit un tiers du pétrole européen, qui va passer son pic de production, enfin qui l'a probablement passé avec le Covid, là, ça y est. Donc tout ça va se contracter et donc comme la quantité de machines qui peuvent fonctionner, puisque c'est ça l'énergie en Europe va diminuer, l'économie va structurellement se contracter. Donc la bonne question, c'est comment on organise une forme de sobriété. Et par ailleurs, comment est-ce qu'on organise la société dans un monde dans lequel il n'y a pas de plus en plus, mais de moins en moins. Et le grand danger pour les démocraties vient du fait que pour le moment, ce plan B n'a jamais été réfléchi, parce qu'il est considéré comme, je sais pas quoi, inaudible, inenvisageable, enfin bref. Et donc, on risque une forme de chaos, parce que personne n'est prêt, personne n'a pensé ce monde-là. Personne n'a compris comment on pouvait s'organiser dans ce monde-là. C'est ça, malheureusement, la transition énergétique que nous allons avoir.
Et alors,
dans ce monde-là, on ne fait pas des gadgets chers qui, au plus, ne résolvent pas de problème. On essaye d'aller à l'essentiel.
Alors, l'essentiel, c'est quoi? Le think tank que vous dirigez, Jean-Marc Jancovici, The Shift Project, a établi une méthode pratique pour accompagner cette transition énergétique. Qu'est-ce que vous préconisez?
Alors, vous aurez la réponse dans 3 mois. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de lancer une mise à l'étude de ce que serait un plan de transformation de l'économie qui obéirait à une double contrainte. La première, c'est qu'il faut vraiment faire baisser la dépendance aux combustibles fossiles. D'une part, parce que ça contribue à dérégler un climat qui était stable depuis 10 000 ans et cette stabilité est très précieuse pour la stabilité de nos sociétés. Juste un indice en passant, dans un monde qui se réchaufferait de quelques degrés, disons 4-5, d'ici à 2100, à partir de 2070, il y a entre 1,5 et 3 milliards d'hommes sur Terre qui devraient vivre dans des conditions qui sont plus chaudes que le Sahara actuel. Vous avez du même ordre de la population, donc l'ordre du milliard, qui vivrait donc dans des zones dans lesquelles, à peu près tous les jours de l'année, les conditions extérieures seraient mortelles, seraient trop chaud et trop humide pour que les gens puissent se tenir à l'extérieur. Tout ça dans un monde qui aura moins d'énergie, évidemment. Donc on ne va pas dire on va climatiser partout, puis climatiser dans les champs, c'est compliqué. Donc le changement climatique est évidemment quelque chose à éviter. On n'a pas idée de la disruption que ça représente, hein, mais c'est quelque chose qui est à éviter. Et par ailleurs, même si on se fiche du changement climatique, en Europe, on va avoir notre approvisionnement fossile qui va se contracter parce que, comme je le disais, charbon, pétrole et gaz sont à la baisse de toute façon. Donc ce que nous allons faire au Shift Project, c'est qu'on va regarder quelles sont les manières de transformer l'économie dans ce contexte, avec cette contrainte-là, et avec une autre contrainte, qui est qu'on ne table pas sur le retour de la croissance. Donc on s'est mis au travail, il y a maintenant 3 semaines, et on va sortir un plan qui est en 2 temps. Le premier temps va arriver dans pas très longtemps, c'est les contreparties qu'on estime légitimes de demander au secteur ou aux entreprises qu'on va aider, entre guillemets, en sortie de crise. Il faut évidemment les aider à ne pas repartir comme avant, puisque avant, à cause de la décrue énergétique, on a juste l'assurance qu'ils vont prendre une autre baffe. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on leur demande en contrepartie?
Donnez-nous des exemples.
Je vous donnerai des exemples dans 15 jours, si vous me réinvitez.
On ne va pas vous inviter maintenant tous les 15 jours, Jean-Marc Jancovici, mais...
Il y a des politiques qui ont leur ronde serviette beaucoup plus fréquemment.
Pas sur France Culture, mais si on prend le système, parce que c'est très contre-intuitif ce que vous nous dites, la période ne sera pas la croissance, là on vous suit aisément, mais précisément, on se représente souvent la transition énergétique comme une époque d'investissement. On se dit qu'il va y avoir l'isolation des habitations à effectuer, qu'il va falloir changer de système, par exemple passer de la voiture au moteur à explosion à la voiture électrique, ça suppose des investissements. Est-ce qu'on peut faire sans, Jean-Marc Jancovici?
Ah bah oui, on peut très bien faire sans, on peut faire moins de voitures. Et à ce moment, les gens sont obligés pour le coup de partager la voiture avec le voisin, donc ils sont obligés de se lever une demi-heure plus tôt ou une demi-heure plus tard et de faire un crochet pour... ils sont obligés à ce moment. Les gens sont obligés de choisir éventuellement un travail plus près de chez eux qui leur plaît moins. Oui, on peut très bien faire autrement. Après, est-ce qu'on a envie de faire autrement? C'est un autre sujet. Mais est-ce que physiquement, on peut faire autrement? Bien sûr que oui. Moi, il se trouve que je travaille à Paris et j'habite à 25 km de Paris. je peux aller à Paris en vélo. Ça me prend une demi-heure ou une heure de plus, mais je peux le faire. Donc, la question de est-ce qu'on peut, bien sûr qu'on peut. Avant le Covid, je vous aurais demandé est-ce qu'on peut supprimer 10% de l'économie française ? Vous auriez sauté au plafond en disant oh, comment ça, vous êtes fous, on ne peut pas le faire. Bah, on va le faire cette année. Donc, il y a des tas de trucs qu'on peut faire, même si on n'a pas envie de le faire.
Justement, il peut y avoir des effets vertueux à la crise, je mets ça entre guillemets. Alors, par exemple, l'industrie aéronautique et le transport aérien ne vont pas repartir tout de suite. Par exemple, le télétravail qui était, disons, expérimental est aujourd'hui beaucoup plus généralisé. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Marc Jancovici ?
Ça, je pense justement que c'est des mesures de sobriété, donc c'est des mesures récessives. Si vous avez moins de transport aérien, vous avez moins de fabricants d'avions, Airbus, là, ils s'attendent à avoir une baisse très significative de leur activité. Vous avez moins de gens qui sont payés par les compagnies aériennes, puis vous avez moins de touristes qui se baladent, donc vous avez moins de gens qui viennent dans les hôtels, cafés, restaurants, etc. Donc c'est tout à fait possible, mais vous voyez bien que c'est une contrepartie sur l'économie qui est que c'est récessif. Alors maintenant, si on renverse le problème, si on se dit de toute façon l'économie va pas augmenter mais va diminuer, c'est quoi la bonne manière de s'organiser qui permet de préserver l'essentiel ? Et l'essentiel pour moi, c'est que les gens continuent quand même à avoir confiance en l'avenir. Il faut quand même rappeler que cet épisode va créer à la louche, à mon avis, 4 millions de chômeurs supplémentaires. Mmh. Ni vous ni moi n'avons envie d'être à leur place, et c'est parfaitement légitime. Donc la bonne question, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que dans ce monde-là, les gens aient quand même un emploi. C'est ça pour moi le premier truc absolument central, même si ce n'était pas ce qu'ils faisaient avant, mais il faut absolument qu'ils aient un emploi. Et par ailleurs, il faut qu'effectivement le monde se réorganise d'une manière qui est plus résiliente, plus résistante, qui demande moins une grande quantité de matière et d'énergie pour rester. En fait, on a créé un monde qui est très performant tant qu'il reste dans sa zone de confort et qui se met à dysfonctionner très fortement dès qu'on le sort un peu de sa zone de confort. Vous voyez, c'est bien ça le monde dans lequel on vit. Il faut faire un monde qui accepte d'être sorti de sa zone de confort, parce que c'est ça qui va se passer, et qui continue quand même à fonctionner à peu près correctement.
Jean-Marc Jancovici, est-ce que vous ne redoutez pas qu'il y ait un moratoire sur l'écologie, comme il y a, semble-t-il, un moratoire sur la dette, c'est-à-dire que finalement, les politiques décident de reporter cette transition-là à plus tard ?
Alors la transition qui reporterait à plus tard, je le redis, c'est celle qui n'a pas d'intérêt pour moi, c'est-à-dire qu'en France, la transition énergétique qu'on a mise en route, l'essentiel des moyens, quand regardez où va l'argent, je ne parle pas des discours, hein, mais où va l'argent, l'argent va dans le fait de faire des éoliennes et des panneaux solaires. C'est un programme qui n'a d'intérêt sur aucun point. Alors je peux les prendre dans l'ordre.
Ben oui, expliquez-nous.
Ça n'a pas d'intérêt sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque ça vise à remplacer du nucléaire qui n'émet pas de CO2. Il faut rappeler que le nucléaire consiste à casser en deux des noyaux de métal, l'uranium. Ça n'est pas équivalent à oxyder des atomes de carbone, donc ça ne fait pas de CO2. Et le panache blanc qu'on voit au-dessus des tours de réfrigération, c'est de la vapeur d'eau. Ça sert à refroidir la centrale, c'est pas du tout du CO2. Les centrales à charbon en Allemagne ont les mêmes panaches blancs, et c'est pas de là que vient le CO2. Donc le nucléaire ne fait pas de CO2, remplacer du nucléaire qui ne fait pas de CO2 par de l'éolien ou du photovoltaïque qui n'en font pas non plus en fonctionnement, ça ne fait rien gagner. Et comme par ailleurs il faut dépenser plus de CO2 pour faire le panneau que pour faire la centrale nucléaire, en fait ça en fait même perdre quand on remplace par du photovoltaïque. La deuxième chose sur laquelle ça ne fait pas gagner, c'est l'emploi. Il se trouve que quand on a une centrale nucléaire, on importe l'uranium, mais ça représente très très peu d'argent par mégawattheure produit ou par kilowattheure produit. Quand on fait du solaire ou de l'éolien, on importe soit les panneaux, soit les nacelles. C'est parfaitement mondialisé, hein, ces industries-là. Toutes les 10 premiers fabricants de panneaux sont en Chine. Et donc, on augmente les importations à consommation constante. Et donc, ça détruit de l'emploi. C'est de la macroéconomie de base. Quand vous augmentez les importations à consommation constante, vous détruisez de l'emploi. Ça ne diminue pas le risque nucléaire parce que vous allez devoir garder vos centrales pour quand il n'y a pas assez de vent ou pas assez de soleil. C'est ce qu'ont fait les Allemands. Les Allemands ont toujours la même quantité de centrales dites conventionnelles, c'est-à-dire charbon, gaz, hydroélectricité, nucléaire, que avant le développement de leur programme éolien et solaire, parce que vous avez besoin d'assurer ce qu'on appelle le backup, la fourniture d'électricité. Comprenez bien que dans l'épisode qu'on vient de vivre, si les hôpitaux n'avaient dû fonctionner que quand il y a du vent ou du soleil, on n'aurait pas trouvé ça très drôle. Donc on va garder le même nombre de centrales, mais on va moins les faire fonctionner, puisque quand il y aura du vent et du soleil, on ne fera pas tourner la centrale. Or, la centrale est un engin à coût fixe. Ça vous coûte la même chose. Ce qui vous coûte cher pour une centrale nucléaire, c'est de la construire. Après, la faire fonctionner derrière, les gens qu'il faut payer la maintenance et l'achat de l'uranium, c'est pas cher par rapport au coût de construction. Donc, que vous en serviez un peu ou beaucoup, de toute façon, la centrale vous coûte la même chose. Par contre, si vous vous en servez moins, elle vous rapporte moins. Donc, vous avez moins d'argent pour l'entretenir. Donc, le grand paradoxe, c'est que développer du solaire et de l'éolien augmente le risque nucléaire et non pas le baisse. C'est quand même assez farce. Donc, en fait, c'est un truc de shadow qu'on est en train de faire. C'est l'exact exemple. On n'a pas compris le problème posé. Et cet argent-là, pendant ce temps-là, en plus cet argent-là maintenant est prélevé sur les carburants, l'argent qui sert à développer des éoliennes et des panneaux solaires, il ne sert évidemment pas à permettre aux gilets jaunes de rouler pour moins cher. Or, c'est ça qu'il faut faire avec cet argent-là. Donc, il faut faire, alors, ou de la voiture électrique si c'est pas, si c'est pas cher, ou plus, encore beaucoup plus simplement de la petite voiture. Le truc le plus évident pour remplacer une voiture qui consomme 6 litres, c'est de la remplacer par une voiture qui consomme 2 litres sans s'enquiquiner à faire de l'électricité. Ça, ça divise d'un facteur 3 le pétrole dont on a besoin et les émissions qui vont derrière. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait mettre en œuvre demain matin. Donc, il y a aussi le passage sur le vélo. Le vélo électrique en particulier est quelque chose qui a un potentiel très important dès que vous avez 10-15 km à faire parce que c'est un vélo sans effort. Le problème du vélo électrique, c'est de construire des pistes cyclables pour avoir une voirie séparée pour les vélos. Alors, je vais vous donner un ordre de grandeur. Avec l'argent qu'on a déjà mis, je dis bien déjà mis, ou déjà promis de mettre dans l'éolien et le solaire à fin 2018, c'est-à-dire 120 milliards d'euros, je dis bien 120 milliards d'euros, on aurait pu doubler tout kilomètre de route en France d'une piste cyclable. Mais vous pourriez aller de Dunkerque à Menton en vélo sans avoir besoin de croiser la moindre voiture. D'accord. Donc, on a aussi besoin d'infrastructures pour développer le vélo. Ça, c'est parfait pour relancer le BTP, beaucoup mieux que de faire des ronds-points. Donc, vous avez, on peut très bien faire des choses qui sont des choses qui permettent de se passer progressivement de pétrole. Donc là, je viens de vous donner deux ou trois exemples de mesures.
Mais alors, justement. Une question, alors je vais pas à nouveau vous parler de nucléaire parce que la dernière fois qu'on s'était entretenu sur les ondes, le mot nucléaire que j'avais prononcé ne vous avait pas convenu, mais ça veut dire, Jean-Marc Jancovici, que l'on abandonnerait l'éolien et le photovoltaïque au profit donc d'une prolongation de la durée de vie des centrales.
Oui, absolument. Toutes les centrales qui exercent aux États, enfin qui opèrent aux États-Unis, ils ont une centaine de réacteurs, nous on en a un peu moins de 60. Les Américains les ont déjà prolongés à 60 ans et il y a des exploitants qui sont en train de demander la prolongation à 80. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une centrale nucléaire, en fait, la notion d'âge n'a pas vraiment de sens parce qu'au fur et à mesure que la centrale avance, vous remplacez les équipements. Fessenheim, au moment où elle a été fermée d'une manière parfaitement arbitraire par le gouvernement, qui s'est dépêché de faire perdre à la région quelques milliers d'emplois juste avant la crise du Covid, voilà, les locaux apprécieront, c'est une centrale dans laquelle tous les équipements d'origine avaient été changés, sauf la cuve, c'est le seul équipement, donc la cuve, on la surveille, et puis si jamais il y a un problème, là, on arrête, mais dans le monde, il y a très... j'ai pas d'exemple en tête, sauf en Belgique, éventuellement, où on est dit, on retire la centrale du service parce que la cuve présente des faiblesses. À part ça, tout le reste, vous pouvez le changer. Donc, c'est un peu comme une voiture où j'ai envie de dire, au cours de la durée de vie de la voiture, vous ne garderiez que le châssis. Et puis tout le reste, les portières, le moteur, etc., le volant, tout, vous changez au fur et à mesure. Donc, quand vous êtes dans ce genre de système, la notion d'âge n'a pas tellement de sens. Donc, ce qui se passe en France, c'est que tous les 10 ans, vous avez l'ASN, donc l'autorité de sûreté nucléaire, qui passe voir à quoi ressemble votre voiture, votre centrale nucléaire, et qui vous dit, ça c'est encore bon pour le service ou pas, pour 10 ans de plus. Donc au moment où on construit la centrale, il n'y a absolument pas 40 ans garantie, il y a l'ASN qui passe et qui vous dit, bon pour 10 ans, puis qui repasse 10 ans après, en disant bon pour 10 ans ou pas, etc. Et donc dans ce genre de contexte, vous pouvez très bien prolonger les centrales à 60 ans, si à chaque fois vous faites ce qu'il faut pour que quand l'ASN passe, elle dit très bien, bon pour 10 ans. Et ce qu'on aurait de plus intelligent et de moins cher à faire dans notre pays, c'est bien évidemment ce genre de choses. Et en parallèle, il faut se mettre en mesure de remplacer ces réacteurs, parce qu'ils finiront par arriver quand même un jour en bout de course, par d'autres réacteurs pour lesquels, soit dit en passant, l'EPR n'est pas nécessairement la meilleure option. Mais ça, c'est un débat un peu technique interne à la filière. Et je suis tout à fait partisan de remplacer ce nucléaire par un autre nucléaire, parce que quand vous regardez bien les paramètres environnementaux, c'est de très loin ce qui est le plus intéressant pour l'environnement. Un point important, par exemple, il faut 1000 fois plus de surface pour faire la même quantité d'électricité dans l'année en solaire qu'en nucléaire. 1000 fois plus de surface au sol, artificialisé donc. Il faut entre 10 et 100 fois plus de métal par kilowattheure produit quand vous utilisez de l'éolien ou du solaire qui exploite des énergies très diffuses que quand vous utilisez du nucléaire qui est une énergie très concentrée. Donc le nucléaire a des tas d'avantages. Il n'a pas que des inconvénients, loin s'en faut. Et nos prédécesseurs, ils ont fait des tas de trucs idiots, mais il y a aussi des trucs qu'ils ont fait qui n'étaient pas si idiots que ça, et le nucléaire est plutôt arrangé dans cette catégorie.
Bon, j'espère que nous aurons l'occasion d'évoquer les conclusions du Shift Project lorsque vous aurez terminé donc cette étude et les différents processus de transformation énergétique. Une question en conclusion, Jean-Marc Jancovici, est-ce que vous n'avez pas peur que cette crise par rapport donc à une urgence sanitaire, fasse oublier l'urgence climatique. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, aujourd'hui ?
Je ne crois pas. Chacun voit midi à sa porte. Hein. Avec les points de sonde que j'ai à titre personnel, je ne crois pas. Je crois que la crise... Au contraire, je pense que ce qui est en train de se passer en ce moment fait prendre conscience du fait qu'on peut avoir des surprises très désagréables quand on n'a pas pensé à l'avance, à se prémunir contre un certain nombre de risques. Et il me semble au contraire que le sujet environnemental émerge plus tôt dans les préoccupations sur lesquelles les gens ont des convictions renforcées en ce moment. Donc qu'au niveau du gouvernement, il ne soit pas capable dans l'urgence de faire autre chose que d'essayer de faire repartir ce qui existe déjà, moi ça me paraît normal. Du reste, on m'avait demandé ce que j'en pensais il y a quelques semaines, juste après le début de la crise, et j'ai dit c'est exactement comme ça que ça va se passer, parce que vous ne faites pas le plan B dans l'urgence. Soit vous l'aviez déjà fait avant, soit vous ne l'avez pas fait. Et si vous ne l'avez pas fait, vous vous dites que la manière la plus simple de remettre les gens au travail, parce que c'est ça qui est en tête de nos gouvernants, et c'est légitime, c'est normal que les gens aient un emploi, encore une fois, hein. C'est d'essayer de faire en sorte qu'ils refassent ce qu'ils savaient déjà faire, ce qui revient à dire qu'on repart comme avant. Mais je ne crois pas du tout qu'en termes de préoccupation, la préoccupation environnementale soit passée au deuxième rang. Je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, une partie des gens se disent, tant qu'à repartir de l'avant, essayons de repartir de façon différente.
Bon, rendez-vous bientôt, Jean-Marc Jancovici, pour voir ce qui va se dérouler dans les prochaines semaines. Merci d'avoir été ce matin avec nous. Je rappelle que vous présidez le think tank The Shift Project. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de nos camarades de la séquence TTC 8h47 sur France Culture.